Le journal, c'est avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Jean Castex invite les Français à la patience dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le Premier ministre qui devrait par ailleurs annoncer ce soir de nouvelles mesures contraignantes pour tenter de freiner l'épidémie.
Renault dévoile ce matin sa feuille de route pour affronter la révolution du secteur automobile.
Et en l'occurrence, la marque Hollandsange se verrait bien leader dans l'électrification en 2025.
Dans votre journal également, le rachat de Carrefour par une entreprise étrangère représenterait une difficulté absolument majeure.
Oui, déclaration ce matin du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, après que le géant canadien Alimentation Couche-Tard a fait part de son intention d'acquérir le groupe Tricolore. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE.
L'actualité à l'étranger, avec tout d'abord un gouvernement italien en sursis.
Hier, en pleine lutte de pouvoir contre le Premier ministre Matteo Renzi, a provoqué une crise gouvernementale en annonçant la démission de deux ministres issus de son parti. Puis nous irons également en Ouganda, où se tient depuis ce matin une élection présidentielle sous très haute tension. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Comment s'exprime une révolution avec des slogans, avec des mots, mais aussi avec des images? Avec nous, deux invités, Sana Yazighi, elle est graphiste, et le politologue Ziad Majed. De la Syrie au Liban, en passant par le Caire et Tunis, quelles traces reste-t-il des soulèvements, de cette contestation par la rue? On revient à l'occasion des 10e anniversaire des printemps arabes sur tous ces sujets dans la deuxième partie de l'émission.
Mais pour commencer, sous forme de rappel à l'ordre, c'est en réalité bien d'une sanction qu'il s'agit. Après le Conseil d'État, c'était au tour de la CNIL ce matin de demander au ministère de l'Intérieur d'arrêter sans délai tout usage de drones équipés de caméras en dehors de tout cadre légal. L'autorité chargée de protéger nos données, notre vie privée, demande à l'État de ne plus avoir recours à ces engins, quelles que soient les finalités poursuivies, tant qu'une loi n'encadrera pas leur utilisation. Maxime Tellier, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Rappelons que depuis près d'un an déjà, la police, la gendarmerie ont recours à des drones, notamment pour veiller au respect des mesures de confinement. Une pratique donc, Maxime, totalement hors des clous de la loi.
Oui, aucun texte n'autorise le ministère de l'Intérieur à utiliser des drones équipés de caméras capables d'identifier les personnes, écrit la CNIL dans son avis publié ce matin et qui est l'aboutissement d'une procédure commencée en mars. Lorsque la presse évoque l'usage de drones pour faire respecter le confinement, la CNIL écrit alors au ministère de l'Intérieur qui lui répond que des drones sont bel et bien utilisés par la police et la gendarmerie, alors pour faire respecter le confinement, mais aussi pour surveiller les manifestants, reconnaître des lieux avant une interpellation, surveiller des trafics de stupéfiants ou encore des rodéos urbains. En juillet, la CNIL fait procéder à un vol d'essai d'un drone utilisé par la préfecture de police de Paris et elle constate que les personnes filmées peuvent bien être identifiées sans que la loi ne l'encadre, comme c'est le cas par exemple pour les caméras piétons ou la vidéosurveillance, qui fixe la durée de conservation des données, qui interdit de filmer l'intérieur des logements, floute les personnes et les informe avec des panneaux. Eh bien là, avec les drones, rien de tout cela. Alors la sanction réside surtout dans la publicité de cet avis, car la CNIL ne peut pas prononcer d'amende contre l'État. Le ministère de l'Intérieur s'est opposé même à cette publicité, mais il indique finalement dans un communiqué ce matin qu'il va cesser d'utiliser les drones. En attendant, la proposition de loi sécurité globale qui arrive au Sénat dans un mois doit justement fixer un cadre juridique avec son article 22. C'est un sujet de société. Il fallait qu'on dise clairement que ce qui est fait n'était pas bien, me commente un conseiller de la CNIL. De son côté, le ministère affirme que les drones sont nécessaires à sa mission de protection des biens et des personnes. Encore une fois, il va falloir trouver le juste milieu entre liberté et sécurité.
Merci Maxime Tellier. Le couvre-feu dès 18h sera-t-il élargi à d'autres départements, voire généralisé à tout le pays? Réponse dans quelques heures. C'est aujourd'hui en effet que l'exécutif doit trancher sur de nouvelles restrictions face au Covid-19. Jean Castex tiendra sa traditionnelle conférence de presse à 18h, entouré de pas moins de 6 ministres. Mais avant cela, le Premier ministre était en déplacement ce matin au centre hospitalier régional de Metz, en Moselle, l'un des 25 départements d'ores et déjà concernés par un couvre-feu dès 18h. L'occasion pour le chef du gouvernement de défendre à nouveau sa stratégie vaccinale qui, après un démarrage critiqué pour sa lenteur, doit continuer sa montée en régime. C'est ainsi par exemple que depuis ce matin, les 5 millions de personnes âgées de plus de 75 ans peuvent désormais s'inscrire sur Internet ou par téléphone pour se faire vacciner à partir de lundi prochain. Étape clé pour les défenseurs du climat qui espèrent la reconnaissance d'une défaillance de l'État dans la lutte contre le réchauffement. L'affaire du siècle arrive aujourd'hui devant la justice, plus exactement. Le tribunal administratif de Paris doit examiner cet après-midi le recours contre l'État déposé par 4 ONG. Une action en justice inédite qui, si elle venait à l'emporter, pourrait faire jurisprudence et ouvrir véritablement la voie à une justice climatique en France. Dans tous les cas, ce qu'espèrent les ONG à l'origine donc de cette procédure, grâce à une pétition qui avait rassemblé plus de 2 millions de signatures, soit la pétition en ligne Véronique Robérotte la plus signée de France.
Début 2019, 2 300 000 personnes signent en moins d'un mois la pétition. Elle vient soutenir une requête préalable adressée au gouvernement quelques semaines plus tôt, étape obligatoire avant toute procédure devant un tribunal administratif. L'État est accusé de carence fautive par son action défaillante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Face au rejet de cette demande préalable par le ministère de la Transition écologique, les ONG déposent alors formellement le recours contre l'État en mars 2019. L'affaire arrive désormais devant le tribunal administratif de Paris, sans qu'entre-temps l'État français ait convaincu sur son intention de mener une politique ambitieuse contre le réchauffement climatique. Le gouvernement met en avant la loi énergie-climat de 2019 qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050 et une baisse de 40% de la consommation d'énergie fossile d'ici 2030, mais sans pour autant faire la démonstration d'une trajectoire crédible. Saisi en novembre dernier par la commune de Grande-Synthe, le Conseil d'État, la plus haute juridiction française, a donné 3 mois à l'État pour justifier de ses actions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour les ONG, une victoire devant le tribunal administratif serait de bon augure avant la présentation le 10 février prochain du projet de loi issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, des propositions largement détricotées par le gouvernement, estiment les associations.
Figure incontournable du courant centriste, ancienne députée de Paris, ex-parlementaire européenne et ministre éphémère des Affaires européennes dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe, Marielle de Sarnez s'est éteinte hier à l'âge de 69 ans, terrassée par une leucémie foudroyante. Pendant plus de 40 ans, elle aura surtout été à la fois la confidente, mais aussi l'inspiratrice du président du Modem, François Bayrou. La France a perdu une responsable politique de grand talent, a réagi dès hier soir Emmanuel Macron. On le sait, la pandémie de Covid-19 aura tout autant chamboulé la vie quotidienne que forcé les entreprises à revoir leurs ambitions. Et dans le transport notamment, ce virage semble aujourd'hui profiter à la voiture électrique, laquelle s'exhibe d'ailleurs en ce moment même au salon annuel de la tech de Las Vegas. En France, Renault, pionnier justement dans l'électrique, a de son côté dopé son offre de véhicules hybrides l'an dernier. Et pour marquer davantage encore ce virage et prouver ainsi son engagement dans la transition écologique du secteur, le groupe a même inventé un mot, la Renaultution. C'est ainsi à Kim Kasmi que le constructeur présentait ce matin sa feuille de route pour affronter la révolution du secteur automobile.
Oui Thomas, nous devons passer du volume à la valeur. Message à peine voilé à l'encontre de l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, qui avait toujours privilégié les volumes pour devenir numéro 1 mondial au détriment des bénéfices. Mais voilà, depuis, les résultats ne sont plus au rendez-vous. Renault a perdu 2 milliards d'euros depuis 2019 et va devoir supprimer 15 000 postes à travers le monde, dont 4 600 en France. Les économies, il en sera question jusqu'en 2023, ce qui passera notamment par la réduction des capacités des usines de Renault, qui passeront de 4 à 3,1 millions de véhicules produits par an sur l'ensemble de ces sites, aussi bien en France qu'en Europe. Mais Luca De Meo, le nouveau patron de Renault, n'a pas voulu indiquer pour l'instant quels seraient les sites menacés, ni s'il y aurait de nouvelles suppressions de postes. Les économies aussi au niveau de l'ingénierie, 30% d'économisés à réaliser d'ici 2023, mais aussi au niveau des plateformes. Désormais, il n'y en aura plus que 3 pour l'ensemble de l'alliance Renault-Nissan, qui devront produire 80% des modèles. 2023, qui sera aussi placé sous le signe de la relance, avec le lancement de 14 modèles jusqu'en 2025, dont la moitié seront totalement électriques, avec une priorité donnée cette fois aux catégories C et B, beaucoup plus rentables et plus profitables. Luca De Meo espère réaliser de 5 à 7 000 euros de marge sur ces modèles, qui avaient été longtemps délaissés par la marque. Renault qui a également annoncé la reconversion du site de Flins, qui va se spécialiser dans la reconversion de modèles thermiques en véhicules électriques, notamment pour réduire les émissions de CO2, dont les véhicules représentent aujourd'hui 15% des émissions en Europe. Enfin, Renault a annoncé, et c'était très attendu, le retour emblématique de la R5, modèle mythique des années 70 et 80, ainsi que du petit 4x4 Niva, russe, désormais propriétaire du constructeur français. Preuve qu'en ces temps de crise, les vieux succès ont aussi un côté rassurant.
Après avoir fait part une première fois hier de ses réticences devant le projet du Canadien Alimentation Couche-Tard de mettre la main sur le groupe Carrefour, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a répété ce matin que le rachat par une entreprise étrangère représenterait, je cite, une difficulté majeure. Quant à la ministre française du Travail, Elisabeth Borne, elle ne dit pas autre chose en évoquant aujourd'hui l'importance du groupe de distribution dans la sécurité des chaînes d'approvisionnement alimentaire en France. Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bruno Le Maire se dit donc a priori opposé à un tel rapprochement et invoque en l'occurrence le décret dit Montebourg de 2014 qui permet à l'État de contrer une prise de contrôle par des investisseurs étrangers d'entreprises jugées stratégiques. Alors on va revenir évidemment sur le cas précis de Carrefour, mais avant cela, et puisque vous étiez vous-même conseiller économique d'Arnaud Montebourg au moment de l'élaboration de ce décret, donc peut-être pourriez-vous nous rappeler, Mathieu Plane, ce qui a à l'époque justifié une telle réglementation?
Alors, à l'époque, on était dans un contexte particulier, hein, avec le rachat d'Alstom par General Electric, et notamment le fait que le gouvernement n'était pas au courant de ce rachat, qui était un rachat des entreprises industrielles stratégiques pour la France. Et donc, a été mis en place à ce moment-là ce décret pour défendre un certain nombre d'intérêts stratégiques industriels en définissant un périmètre sur lequel, en fait, l'État pouvait préempter en fait des rachats qui était faite par des investisseurs étrangers sur la France en disant finalement ça c'était un risque pour la souveraineté nationale, économique, industrielle, stratégique pour la France, et donc l'État avait un droit de regard, plus qu'un droit de regard, pouvait même bloquer un certain nombre de rachats. Et donc ça a été vrai donc sur Alstom, ça a notamment modifié un certain nombre de choses dans ce rachat-là, mais on voit que le gouvernement l'a utilisé aussi à un moment donné pour justement avec Ficantieri et les chantiers de Saint-Nazaire, justement l'italien qui voulait racheter Saint-Nazaire, et le gouvernement a considéré que justement ce rachat n'était pas équilibré et donc présentait un risque, et donc il a mis en place ce décret Montebourg de façon à entraîner une renégociation du rachat. Donc c'est vraiment un outil pour défendre les intérêts stratégiques et industriels du pays, comme ce qui existe dans beaucoup de pays d'ailleurs.
Il faut dire que la liste des secteurs a été élargie. Au départ, il n'y avait que uniquement les secteurs de la défense, de la sécurité, donc qui pouvaient être protégés au nom de la souveraineté nationale. Ont ensuite été rajoutés donc l'énergie, l'eau, les transports, les communications électriques, la santé publique. Et puis la loi Pacte a, elle, accru encore la liste de ces secteurs avec la sécurité alimentaire, qui en fait donc partie. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Cela s'applique en l'espèce à cette proposition donc de rachat de Carrefour par le groupe canadien Couche-Tard. Est-ce que cela vous semble justifié?
Justifié, oui. Je pense que, en tout cas, il est intéressant quand même que le gouvernement émette un avis, voire prenne des décisions autour de ça. On voit que si aujourd'hui la liste a été élargie par un gouvernement, en tout cas à Bercy, qui sont quand même issus de la droite, donc plutôt avec une vision libérale de l'économie, là on voit désormais un interventionnisme assez fort du gouvernement sur ce type de décision, parce que la crise Covid a changé aussi ce rapport-là aux évolutions économiques, aux intérêts stratégiques, et aujourd'hui la souveraineté alimentaire est un enjeu fort. Donc ça fait partie d'un élargissement du décret, au même titre que l'évolution justement des décrets s'intéresse au stockage de données, la souveraineté numérique, des choses aussi plus technologiques. Mais l'alimentaire, on voit aujourd'hui, est un bien précieux, et donc le gouvernement, ce qui ne veut pas dire que in fine il y aura un blocage total, mais en tout cas il exprime un avis, et si cette décision va à l'encontre des intérêts stratégiques de la France, l'État pourra bloquer ce rachat-là.
Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, selon vous, une sorte de deux poids, deux mesures? En clair, quand Alstom rachète le Canadien Bombardier, on dit bravo. Quand c'est un Canadien qui avait des vues, cette fois-ci sur un Français, on crie au loup. Est-ce que cette prise de position n'est pas d'ailleurs un mauvais signal envoyé aux investisseurs étrangers?
Ah là, c'est un peu le grand écart, je dirais, justement, des messages envoyés par le gouvernement, avec d'un côté la volonté de privatiser les aéroports de Paris, qui sont considérés comme des actifs stratégiques, et de l'autre côté, s'opposer justement au rachat de Carrefour par justement une entreprise québécoise assez connue, avec un modèle économique assez élaboré. Donc du coup, c'est vrai qu'on a un peu un deux poids deux mesures hein, de ce côté-là. Donc c'est un peu le rétablissement de tout ça, avec effectivement un discours assez attractif vis-à-vis des investisseurs étrangers. On l'a vu notamment avec ce qui s'est passé de Versailles ou les réformes qui ont été mises en place. Mais une fois de plus, je pense que la crise Covid a changé ce rapport-là et que chaque pays essaye de défendre aussi ses intérêts stratégiques. On parle beaucoup de la réindustrialisation, de l'économie, de les relocalisations. On l'a vu avec les enjeux qu'il y avait autour des masques ou des respirateurs, qui ne sont pas des biens très complexes à fabriquer, mais qu'on ne sait plus faire. Et donc l'alimentaire fait partie des biens essentiels, on a vu avec les premières lignes, ça en faisait partie. Et aujourd'hui, le gouvernement aussi revoit un peu sa copie, à mon avis, là-dessus.
Une dernière question, Mathieu Plane, en quelques mots vraiment. Les deux entreprises, donc Couche-Tard et Carrefour, sont très différentes sur le plan des activités, des implantations géographiques. Est-ce qu'il y a, selon vous, un risque de casse sociale ?
C'est toujours le risque, c'est-à-dire de savoir à qui profite finalement cette évolution. Est-ce que Carrefour ne peut pas se développer seul ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin des Québécois ? Est-ce que c'est dans l'intérêt plus des Québécois que des Français ? Et donc c'est vrai que l'opération peut être intéressante, mais il faut voir aussi les évolutions à plus long terme, et notamment les risques sociaux qu'il peut y avoir derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que Carrefour est l'un des principaux employeurs de France. Donc, et dans le contexte actuel avec la crise Covid, effectivement, il n'y a pas qu'un enjeu économique, il y a un enjeu politique, et le message envoyé serait certainement assez mal interprété.
Merci Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, je le rappelle, d'avoir répondu à notre invitation. En Italie, le moment tant redouté est enfin arrivé. Une crise politique à l'ombre de la crise sanitaire. Hier, en annonçant le retrait de deux ministres et d'un sous-secrétaire d'État membre de son parti, Matteo Renzi a non seulement retiré sa confiance au gouvernement de Giuseppe Conte, mais aussi et surtout brisé de fait la majorité qui le soutenait. Renzi reproche notamment à Conte sa gestion jugée solitaire de la pandémie et son plan de relance pour dépenser les plus de 200 milliards d'euros que l'UE doit octroyer à l'Italie. Alors, plusieurs scénarios se dessinent à présent. Le président du Conseil pourrait demander un vote de confiance au Parlement en espérant obtenir suffisamment de voix au sein de l'opposition pour compenser le départ du parti de Matteo Renzi. Autre hypothèse, le Premier ministre pourrait démissionner et obtenir un nouveau mandat du président de la République. Enfin, la dernière option consisterait en un changement pur et simple de président du Conseil avec une figure institutionnelle pour terminer la législature en cours. En revanche, Bruce de Galzin, le spectre d'un retour aux urnes à court terme semble, pour l'instant du moins, improbable.
C'est pourtant ce que souhaite l'opposition de droite et d'extrême droite qui hier soir a immédiatement appelé Giuseppe Conte à démissionner afin que les Italiens votent pour une nouvelle majorité. Et si l'on en croit les sondages, en effet, la Ligue, toujours premier parti d'Italie, mais qui a perdu plus de 10 points en un an, Fratelli d'Italia, les néofascistes, qui eux ont bien grimpé, et enfin Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi qui stagne, cette coalition de trois partis remporterait donc les élections. La majorité, toujours au pouvoir, fera tout pour les éviter. Et la crise sanitaire et économique est un argument avancé pour éviter de faire déplacer les Italiens. Alors, que peut donc faire Giuseppe Conte ? Il a les cartes en main. On le sait très en colère contre Matteo Renzi, ce qui semble écarter l'hypothèse d'un retour de son parti dans la majorité. Giuseppe Conte compte ses fidèles et tente d'en convaincre d'autres, mais ce jeu de pronostics déplaît au président de la République qui souhaite une majorité et un plan clair pour l'Italie. Giuseppe Conte pourrait donc démissionner puis reformer un gouvernement, un Conte 3, et ce ne serait pas la première fois dans l'histoire récente de l'Italie qu'un président du Conseil dirige trois gouvernements de suite. Mais on ne peut exclure un gouvernement dirigé par un autre membre de la majorité, ou même un gouvernement technique avant un retour aux urnes, mais pas avant 6 mois.
Le Portugal se résout à un deuxième confinement général qui devrait durer à minima 1 mois. Le Premier ministre a annoncé hier soir une série de mesures qui entreront en vigueur demain et correspondront pour l'essentiel à toutes celles qui avaient été décidées au printemps dernier. En revanche, les écoles resteront cette fois-ci ouvertes et puis, exceptionnellement, les électeurs pourront aller voter au premier tour de l'élection présidentielle du 24 janvier. Ceux qui le souhaitent pourront même le faire de manière anticipée dès cette semaine. La Chine, qui avait assez largement éradiqué l'épidémie depuis le printemps dernier, continue d'enregistrer des bilans en hausse. Le pays a même fait état ce matin de son premier décès officiel dû au Covid-19 depuis 8 mois. Enfin, c'est dans ce contexte qu'une équipe de l'OMS composée de 10 scientifiques chargés de remonter aux origines de l'épidémie est arrivée aujourd'hui à Wuhan où le virus a pour la première fois été signalé fin 2019. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 14 janvier 2011, la fuite du président tunisien Ben Ali avait marqué la première grande date de ce que l'on a
allait appeler la révolution du jasmin, prémisse de ce qui deviendrait plus tard les printemps arabes. En quelques mois, de la Tunisie au Yémen, en passant par la Libye, l'Égypte et la Syrie, les populations s'étaient soulevées réclamant la liberté et la dignité. Sauf qu'à l'immense espoir suscité par ces contestations aura bien vite succédé la désolation dans un monde arabe que l'on croyait avoir été transpercé, alors qu'il n'aura été seulement que traversé par un élan révolutionnaire avant de se transformer en partie en champ de ruines. Quoi qu'il en soit, et s'agissant des plaies mal cicatrisées de ce premier printemps arabe, au propre comme au figuré, Maureen Mercier est allée à la rencontre de ces hommes, de ces femmes mutilées qui se désolent de n'avoir obtenu ni justice ni aucune forme de reconnaissance de la part de leur pays, la Tunisie, où quand les blessés et martyrs du soulèvement voient l'indifférence s'ajouter aux douleurs de leur mémoire endeuillée.
Walid, 32 ans, tente de se maintenir en équilibre sur ses béquilles. Il avait 22 ans lorsque la police de Ben Ali lui a tiré dessus et qu'il a perdu sa jambe.
J'étais blessé par balle et l'État, il s'en fout.
Walid occupe depuis 2 semaines un bâtiment officiel en plein centre-ville de Tunis. Par terre, des couchettes, des chaises roulantes, des blessés lourdement handicapés. À leur côté, leur mère, en colère.
Et le passé, ce que les polices ont fait,
mais
c'est l'impunité.
L'État refuse de reconnaître formellement leur existence, encore moins de les aider à assumer les frais hospitaliers. Ces jeunes se sont fixés un délai. Si en ce 14 janvier, 10e anniversaire de la Révolution, l'État refuse encore de les reconnaître, ils s'immoleront.
Moi, c'est l'essence. On va brûler.
L'un d'entre eux a déjà aspergé ses vêtements d'essence. À ses côtés, un jeune allongé sur une couchette montre une balle qui est venue se loger dans son crâne.
Je suis sa mère. Après 10 ans, on est dans la même merde.
Son message aux autorités.
Qu'ils viennent ici fêter le 14.
Une passante, choquée, observe la scène. Écœuré.
Sous Ben Ali, c'était quoi ? C'était « Vous êtes torturé, vous ne pouvez pas parler. Maintenant, vous êtes torturé, vous pouvez parler et vous n'êtes jamais réhabilité. L'État est encore policier. Les tortionnaires d'hier sont toujours au pouvoir. Ben Ali a disparu, d'accord. Mais tous ses amis sont là. J'ai toujours honte d'être tunisienne. Hein. »
Les tireurs, toujours en poste aujourd'hui, n'ont jamais été inquiétés.
Un reportage à Tunis, signé Maureen Mercier. Puis je précise que les printemps arabes, la révolution des mots, ce sera l'objet de la deuxième partie de la Grande Table. Après une campagne électorale particulièrement violente, émaillée d'arrestations, d'émeutes et endeuillée par plusieurs dizaines de morts, les Ougandais ont commencé à se rendre aux urnes ce matin et déjà des craintes émergent quant à l'équité et la transparence de ce scrutin qui verra s'opposer d'un côté l'indéboulonnable Yoweri Museveni, 76 ans, un ex-guerriero muet en dirigeant autoritaire depuis son accession au pouvoir en 1986 et qui brigue là un 6e mandat. Et puis de l'autre, Bobi Wine, 38 ans, chanteur de raga devenu député et qui malgré son jeune âge s'est imposé au sein d'une opposition divisée comme le principal adversaire au chef de l'État sortant et de son hégémonique parti au pouvoir. Seule certitude, dans un pays où plus de 75% de la population a moins de 30 ans et n'a donc connu qu'un seul président, eh bien, le musicien est devenu une icône pour les jeunes de Kampala, ainsi qu'a pu le constater sur place notre correspondante Lucie Mouillot.
Dans l'un des bureaux du parti de Bobi Wine, Dora, l'une des militantes, diffuse en boucle les musiques de son candidat. Si elle a choisi de soutenir le chanteur, c'est parce qu'il est le seul, selon elle, à comprendre les jeunes des quartiers pauvres de Kampala.
La jeunesse du ghetto, on est oubliés. Par exemple, quand il pleut, nos maisons sont complètement inondées. Tout est détruit dans nos quartiers. C'est comme si on ne faisait pas partie de ce pays. C'est pour cette raison que Bobi Wine nous encourage, parce qu'il sait exactement comment ça se passe de notre côté.
Car le candidat a grandi dans un bidonville de la capitale. Surnommé le président du ghetto, il a réussi à mobiliser les jeunes défavorisés, selon Derek, 28 ans, et fervent partisan de l'opposant.
Ce n'est que cette fois que nous avons trouvé une vraie opposition qui a inspiré la plupart d'entre nous qui ont grandi dans les ghettos. Et nous pensons que nos voix doivent être entendues. C'est pour ça que nous nous battons. Et nous pensons que c'est le bon parti pour diriger l'Ouganda.
Parmi ces jeunes derrière le mouvement de Bobi Wine, ils sont nombreux à aller aux urnes pour la première fois, comme Rendar, originaire du quartier du candidat.
Bobi Wine nous a réveillés. Nous voulons mieux. Il y en a assez de la corruption, du chômage, de la brutalité. Des gens sont blessés par la police et personne n'a à rendre de compte. Donc nous voulons du changement.
S'il compte aller voter, Rendar, comme bien d'autres jeunes de Kampala, reste sceptique sur la transparence des élections. Ces dernières semaines, la communauté internationale a exprimé à de nombreuses reprises ses inquiétudes sur la répression des libertés civiles dans le pays.
Dans un profond silence, le maillet est tombé hier au Congrès, les mains serrées l'une contre l'autre sur la feuille donnant le résultat d'un vote historique. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a annoncé la mise en accusation de Donald Trump pour avoir incité à l'insurrection contre le Capitole, faisant ainsi du locataire de la Maison Blanche le premier président américain à subir l'infamie d'un deuxième impeachment. Reste désormais à savoir jusqu'où les contorsionnistes républicains sont-ils prêts à aller. En clair, ceux qui condamnent aujourd'hui l'attaque du temple de la démocratie américaine et jugent Donald Trump responsable vont-ils oser le démettre de ses fonctions pour que ce dernier soit privé de ses pouvoirs? Il faudrait que 17 sénateurs du Grand Old Party tournent le dos à leur chef. Tout se jouera donc à partir de mardi prochain, date à laquelle la Chambre haute du Congrès doit reprendre ses travaux à la veille de l'investiture de Joe Biden. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué notamment par un épisode neigeux notable sur le nord-est, toute la moitié ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Là, le ciel restera chargé avec de faibles pluies. Enfin, le soleil résistera encore sur les régions méditerranéennes. Quant aux températures, elles afficheront entre 1 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.